Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Radio Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Bienvenue dans cette émission de CCC, c'est ça la classe. Ils vont assurer, comme ils ont assuré déjà lors du premier numéro, je rappelle le principe, un professeur, votre serviteur et un certain nombre de lycéens qui sont avec nous aujourd'hui. Nous allons les saluer, ils vous parlent de l'actualité, nous vous proposons trois sujets aujourd'hui, je vous donne le programme dans quelques secondes. Pour l'instant, voici donc les présentations. La pétillante, la pétulante, la dynamique, Clarisse, bonjour.
Bonjour.
La non moins pétulante, perfectionniste, Anne-Sophie.
Bonjour Adius.
Monsieur Serre, Martin, chaque fois, chaque semaine, je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui a droit au nom de famille, c'est pas grave, Martin.
Bonjour.
Bonjour Martin. Mademoiselle Fanny, celle qui parle plus vite que son ombre, c'est un peu la Lucky Luke des... au féminin.
Bonjour.
Et enfin, le sémillant Antonin. Bonjour.
Bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes en forme pour ce direct?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez un petit peu peur?
Bien sûr.
Et puis évidemment, non, l'incontournable et parfait technicien, mais qui n'hésitera pas à intervenir aussi quand il le souhaitera derrière les manettes, Joris. Bonjour Joris.
Bonjour.
Alors voici le menu du jour. Trois sujets, comme la semaine dernière. On va d'abord parler d'orthographe. Pardon, ça va vous rappeler peut-être un petit peu le lycée. La question que je vais vous poser, c'est l'orthographe est-elle dépassée ou doit-elle être réhabilitée sans faute? Dans un deuxième temps, on s'intéressera à l'éducation des filles et des garçons. De plus en plus, certains s'interrogent sur les jouets qu'il faut donner aux filles et aux garçons, l'éducation de manière générale qu'il faut donner aux uns et aux autres. Faut-il une différence systématique ou au contraire les éduquer à l'identique? C'est le débat que l'on aura dans un deuxième temps. Et enfin, nous terminerons cette émission en collant à l'actualité avec perfection, puisqu'aujourd'hui commence le Festival de Cannes. C'est le lancement et la cérémonie d'ouverture ce soir sous le coup des 19h. Eh bien, on se demandera si le Festival de Cannes, c'est quelque chose qui concerne des adolescents de votre âge, 17 ans, des lycéens. Est-ce que c'est in? Est-ce que c'est juste bling-bling et totalement dépassé? Est-ce que vous allez voir les films? Un grand événement est attendu dès aujourd'hui. L'ouverture se fait avec Leonardo DiCaprio, le grand et célèbre Leonardo DiCaprio, dans une reprise de Gatsby le Magnifique. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous allez au cinéma régulièrement? C'est des questions que je vous poserai. On va donc commencer par le premier sujet sur l'orthographe. Est-ce que aujourd'hui l'orthographe est encore d'actualité ou est-ce que vous avez l'impression que on y fait moins de cas et que c'est moins important qu'avant ou est-ce que c'est encore quelque chose qui pour vous est à la fois utile et que vous soignez? Martin?
Alors pour moi, de ma part, je pense qu'il y a à peu près deux
pour
mondes.
Toi de
en
ta
fait.
Part, oui.
Oui, c'est le stress du direct.
Je comprends. Moi aussi.
Je pense qu'il y a à peu près deux mondes. Il y a un peu le monde qui est un peu plus formel, enfin un peu plus officiel, où donc du coup on doit s'appliquer à avoir une orthographe correcte pour par exemple les CV quand il s'agit de chercher un travail ou un stage. Je pense notamment un stage de troisième. Et puis il y a le monde un peu à côté où là c'est plutôt entre amis, avec, je pense, au SMS, avec la démocratisation du portable, avec tous ces échanges. Donc après, on parle un peu moins bien, donc du coup, quand on parle avec nos amis, sûrement. Mais je pense que ces deux mondes, en tout cas, pour moi, ils sont pas confondus, et l'un est pas plus... va pas influencer l'autre. C'est-à-dire que j'y garde quand même un rapport avec l'orthographe qui est amical.
Pensez-vous que, comme beaucoup d'adultes le disent notamment,
je pense que ça reste important en fait.
D'autres générations, d'accord.
Ça
reste important pour toi que les SMS, que Internet, que les messages rapidement envoyés nuisent à l'orthographe ou est-ce qu'on fait bien la différence entre les deux? Quand il faut faire quelque chose d'un peu officiel, on y prête garde et entre amis, moins, et c'est normal. Est-ce qu'on peut faire la séparation entre les deux, Fanny et Anne-Sophie?
Moi, je pense que maintenant, c'est de plus en plus les jeunes qui sont touchés par les portables. Et les jeunes, c'est à ce moment-là que se construisent du coup l'apprentissage de la langue et tout ça. Et donc, du coup, je pense que le langage SMS va facilement déborder sur le monde plus officiel dont tu parlais, Martin. Et je pense que, justement, d'ailleurs, on se rend compte que maintenant, il y a de plus en plus de problèmes avec des gens qui cherchent un emploi et qui ont des difficultés parce que pour rédiger le CV et tout ça, ils vont faire plein de fautes. Donc, je pense que ça peut devenir un problème.
Sophie, tu es d'accord avec ça?
Oui, mais déjà, on fait une constatation directement, c'est que la génération actuelle dans laquelle on est fait beaucoup plus de fautes d'orthographe qu'avant et on y prête beaucoup moins attention. Alors, avec les mails, avec les SMS, certes,
Et puis, quand tu dis « on », pardon, t'interromps, c'est qui prennent moins d'attention,
les
amis, la famille,
les,
ou les professeurs eux-mêmes,
même
peut-être?
Même les professeurs, moi, je pense. Par exemple, une copie où aujourd'hui on trouve beaucoup de fautes d'orthographe, à mon avis, elle est moins dévalorisée qu'une copie dans les années 20,
c'est
50, où ça comptait énormément. Même l'écriture, il fallait qu'elle soit très, très recherchée. Et aujourd'hui, tout ce qui est écriture, orthographe, je trouve qu'on y prête beaucoup moins d'attention. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que la langue française, c'est notre langue. Et c'est dommage de la laisser comme ça.
Mmh. Clarisse ?
Je pense que oui, je suis d'accord. L'orthographe, elle est de plus en plus négligée. Et que donc, par l'évolution du monde, donc avec les portables, les SMS, tous les mails, tout ça, ou encore sur les réseaux sociaux où on discute en direct. Et que du coup, ben, ça va nous porter préjudice pour plus tard, le fait de faire des fautes, tout ça. Parce que du coup, ben, si on veut obtenir un emploi et qu'on envoie une lettre avec des fautes, ben, ça marque mal. Et on aura... C'est pas des qualités.
Alors ça tombe bien ce que tu dis, parce qu'il y a quelques mois de cela déjà maintenant, les actualités nous avaient raconté ceci. On a tendance à penser que les CV ayant de plus en plus de fautes d'orthographe, les patrons font moins en moins attention à ça, et c'est pas tout à fait exact. Alors c'est un cas extrême, mais dans une entreprise, un monsieur qui avait l'habitude de donner le soir à sa femme, qui était bien meilleure en orthographe que lui, ses rapports professionnels, se faisait corriger les fautes par cette femme, et sans rien dire évidemment au patron parce qu'il avait un peu honte, jusqu'au jour où il a été pris la main dans le sac. Pourquoi ? Parce que c'était un rapport plus urgent que d'habitude, qu'il n'a pas pu rentrer le soir chez soi, c'était dans la journée, c'était dans l'heure à rendre au patron, donc il a corrigé les fautes lui-même, donc il en a oublié les trois quarts. Le patron lui dit « Comment ça se fait ? D'habitude, bah, vous me rendez toujours des trucs parfaits, et là c'était beaucoup moins parfait. » Et il a dû dire la vérité, et il était licencié pour faute professionnelle, pas tellement parce que sa femme corrigeait les fautes d'orthographe, mais parce que, tout simplement, c'était confidentiel et qu'il ne devait pas rentrer à la maison pour faire lire des choses confidentielles et professionnelles à sa femme. Vous voyez que jusqu'où ça peut aller ? De la même manière que ceux qui effectivement lisent les CV disent qu'ils jettent à la poubelle ceux qui n'ont pas fait l'effort de vérifier les fautes d'orthographe. Donc ça reste encore, ça paraît un peu la science-fiction, mais pourtant pas, en 2013, un critère de sélection d'une certaine manière. Antonin et puis Martin ?
Oui, moi je pense que l'orthographe c'est toujours très important, notamment dans le milieu du journalisme, ou surtout l'écrit.
Je crois qu'Antonin veut être journaliste plus tard, ouais, c'est ouais, ça, c'est ce qui me semblait.
Ouais, c'est toujours très important. J'ai mes grands-parents, moi, qui à leur époque, ils faisaient des dictées quasiment, deux à trois fois par semaine, ouais. Et du coup après eux ils s'amusent à prendre les journaux de nos jours avec les journalistes qui les écrivent, et ils s'amusent à corriger les fautes. Mmh. Et ils en découvrent encore beaucoup
plus en plus de coquilles, y compris chez des gens dont c'est le métier.
Ouais, voilà, donc c'est des journalistes, du coup ils doivent maîtriser parfaitement la langue française.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon d'orthographe ? Moi, ma mère, je la salue, c'est bientôt la fête des mères, elle s'appelle Danielle, me faisait faire des fautes d'orthographe, le sacré lapsus. Non, me faisait faire beaucoup de dictées, plusieurs fois par semaine, hein, j'en ai mangé de la dictée. Alors, c'est pas la solution miracle, mais c'est vrai qu'on en fait peut-être moins, y compris à l'école. Est-ce qu'il y a, d'après vous, une recette miracle pour être bon d'orthographe ? Anne-Sophie et Martin ?
Bah, y a les dictées d'abord, mais aussi je pense que la lecture ça a une grande importance, et qu'aujourd'hui on lit beaucoup moins qu'avant, parce qu'on veut nous faire peut-être lire moins de classiques et tout. Moi au collège j'ai pas beaucoup lu de livres avec l'école, et moi j'ai l'impression que ça permet de mémoriser les mots peut-être plus facilement et inconsciemment qu'une dictée qui peut être rébarbative. Et puis en plus de l'orthographe, ça apprend beaucoup de mots de vocabulaire, et moi, je trouve que la lecture, c'est un bon moyen, un compromis entre la dictée qui est rébarbative et qui n'est peut-être pas préparée. Et on ne peut pas forcément avoir des bonnes notes à chaque fois, et la lecture qui est plus agréable. Quand le livre nous plaît, parce qu'on peut un livre, même qui n'est pas un grand classique, le lire avec plaisir.
Ouais, mes notes étaient de mieux en mieux quand même, hein, grâce à ces nombreuses dictées auxquelles j'ai eu droit.
Oui.
Mais c'est vrai que la dictée en soi...
C'est moins plaisant pour l'élève que...
C'est vrai, c'est plus rébarbatif comme tu disais. Mais salut quand même à ma maman. Je ne lui en veux pas. Marthe.
Pour moi,
est-ce que ta maman t'a fait faire des dictées ou continue à t'en faire ?
Non, heureusement.
Non.
J'en faisais bien assez.
Comment ça, heureusement ?
Non, mais c'est. Je pense que c'est bien, comme ça permet de prendre l'habitude de faire attention à son orthographe. Et je pense que c'est surtout ça l'important. Enfin, c'est le fait de prendre cette habitude, en fait, de faire attention. Et c'est là où il y a le danger des réseaux sociaux, des SMS, parce qu'on n'a plus à faire attention. Il n'y a rien qui nous force à se concentrer sur notre orthographe. Enfin voilà, c'est une question de volonté. Du coup, je pense que c'est ça qui est là où il est danger, mais si on prend l'habitude de lire, de faire des dictées peut-être, mais bon, ça après, c'est au jugement des professeurs. Et je pense que c'est là où on peut vraiment...
ça peut être un facteur d'incompréhension entre soi quand on fait vraiment beaucoup de fautes d'orthographe. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'incompréhension dans la langue française, qui est notre langue commune, maternelle ? Fanny ?
Moi, je pense que oui, ça peut être un facteur d'incompréhension. C'est vrai que les mots, je trouve qu'on a de plus en plus tendance à oublier le poids qu'ils ont et la valeur. Et c'est vrai que les mots permettent de s'exprimer, de se défendre. Enfin, c'est une arme, je pense, voilà, pour soi et pour les autres. Et de voir que ces mots, finalement, sont petit à petit un peu abandonnés et perdent toute leur valeur, ben, ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu grave, quand même.
Effectivement, ça fait plaisir d'entendre ça de la part de jeunes gens de 17 ans qui sont peut-être à contre-courant, mais qui, je ne sais pas si on doit bien penser ou mal penser, mais pensent des choses assez justes et assez pertinentes. Ça rassure, ça rassure. Mais ceux qui sont autour de cette table, je les connais un tout petit peu, on se voit quelques fois par semaine, sont plutôt des gens en plus qui, dans l'ensemble, ne sont pas trop mauvais en orthographe, hein, donc ça existe encore. Ou aller à une ou deux exceptions près. Bon, on n'est pas à la télévision, on est à la radio, donc je ne dirais pas celui qui a fait une grimace. Vous avez un indice, c'est un garçon, j'ai dit celui. Il y en a un des deux qui vient de faire une grimace, c'est peut-être un peu moins vrai que les filles globalement. Mais est-ce que les filles sont meilleures en orthographe que les garçons? Tiens.
Après ça...
Oui.
Ça revient à l'égalité homme-femme. Antonin. Pas forcément. Après c'est sûr que les petites filles...
C'est pas génétique.
Non.
Est-ce que l'orthographe c'est génétique? Vous savez que parfois on entend ça, on entend c'est, vous savez, c'est un don. L'orthographe c'est un don. Comme si on naissait bon, mauvais en orthographe. Ouais. Bêtise, ça, d'après vous ? Clarisse et puis Fanny ?
Ben non, l'orthographe, c'est pas un don, puisque ça s'apprend. Il y a des gens qui ont plus de facilité, et forcément, on est tous différents, mais il y a quand même des règles de grammaire et des choses qu'il faut apprendre, ou voilà, retravailler avec la dictée. Donc je pense que c'est un travail à faire, et que c'est pas un don, ça tombe pas du ciel.
Fanny ?
Moi, je pense que justement, comme tu le disais, Anne-Sophie, c'est plus caractérisé par la lecture ou par le travail, voilà, mais pas... Absolument pas par le sexe. Enfin, c'est comme dire, par exemple, que les garçons sont plus doués en maths. Pour moi, ça, c'est un peu absurde.
Effectivement. Et pourtant, il y a plus de garçons, statistiquement, qui vont faire une première scientifique que de filles. Mais ça reste plus... Oui, tu as peut-être la raison.
Oui, mais justement, il y a des études qui montrent que c'est parce que, justement, les filles se font moins, se font moins confiance. Voilà,
exactement. C'est de l'autocensure ou de la censure aussi un peu autour d'elles. Parfois, la famille, peut-être les professeurs aussi, qui ont tendance à pousser plus les garçons, en particulier dans le domaine scientifique. C'est en train de changer, heureusement. Mais ça reste vrai, et si vous allez en prépa scientifique, ou même en fac de maths, de sciences, ou de SVT, y a beaucoup moins, il y en a qui veulent faire ça, c'est ça? Je vois des sourires autour de la table, non? Non. Pourtant, on a essentiellement, je dirais même, soyons fous,
que des
scientifiques là autour de la table. C'est une information, chers auditeurs, vous avez 5 futurs, enfin actuels futurs, actuelles premières scientifiques, qui ne feront pas forcément d'études scientifiques, si je comprends bien. Voilà, comme à peu près les 3/4. Des scientifiques. Ça fait partie des paradoxes aussi. Ce n'est pas parce qu'on fait une première S ou une terminale S que l'on va faire des études scientifiques derrière. Anne-Sophie ?
Par contre, juste pour revenir par rapport aux fautes d'orthographe, moi je voulais dire que ça ne concerne pas forcément nous que les jeunes, c'est un cliché que les jeunes d'aujourd'hui écrivent avec beaucoup de fautes d'orthographe, parce qu'on s'était rendu compte par exemple dans des discours pour le président de la République, il y avait eu beaucoup de fautes d'orthographe dedans. Et c'était écrit par des gens qui ont eu des diplômes, qui ont forcément fait des grandes études. Et donc, on se rend compte finalement que c'est un peu toutes les personnes actuelles qui prêtent moins attention à l'orthographe.
Peut-être des gens plus jeunes quand même, parce que probablement que les gens dont tu parles dans l'entourage présidentiel étaient des gens
étaient plus jeunes.
Relativement jeunes, et,
mais voilà, même, c'est
qui venaient du même système que le vôtre d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y a aussi une part de responsabilité partagée, on va dire. Y compris dans l'éducation. Vous dites vous-même, on fait moins de... Alors, la dictée, encore une fois, n'est pas la panacée, mais moins de choses peut-être autour de l'orthographe. Et de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a moins d'heures consacrées au français dans l'éducation nationale au sens large depuis
surtout,
quelques années.
Surtout après la primaire, j'ai l'impression.
Et aussi au primaire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matières.
Parce que là, au lycée, en tout cas, on ne revoit plus vraiment de base. C'est acquis.
En première, pardon. Quand tu disais au primaire, d'accord. En première.
Non, je me suis embrouillé.
Oui, non, c'est...
Et j'ai l'impression qu'on estime que c'est acquis, au final, il y a quand même encore des difficultés pour pas mal d'entre nous.
Enfin, c'est vrai.
Choses qu'on a pas...
On va peut-être conclure sur ce sujet-là avec Fanny.
Ah non, mais c'est pas une conclusion.
Tu as la lourde responsabilité de conclure. Alors attention à ce que tu vas dire, que ça ne modifie pas trop ce que tu allais dire quand même, ne pas te mettre la pression. Ça sera probablement la conclusion, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter derrière, mais il faudra que nous passions à l'éducation des filles et des garçons. Je sens que ça va aussi vous enflammer.
Moi, je pense qu'une grande cause de ça, c'est principalement l'essor de tout ce qui est nouvelles technologies. Parce que non seulement, du coup, ça fait que les gens se tournent moins vers d'autres activités, telles que la lecture et tout ça. Mais en plus, maintenant, on est de plus en plus assistés. Avec, par exemple, pour rédiger des lettres, il y a plein de gens qui vont se tourner vers des logiciels tels que Word, qui vont corriger automatiquement les fautes, etc. Donc, je pense que du coup.
Pas les fautes les plus graves. Ouais. Tout ce qui est fautes de syntaxe, corrige rien du tout.
Les fautes de grammaire, c'est pas corrigé. Juste l'orthographe pure, et c'est ça qui est le plus choquant.
Effectivement. C'était la conclusion, donc, de Fanny.
C'était la conclusion.
Eh bien, alors, nous allons passer au deuxième sujet. Après ce petit jingle, en collaboration entre Joris et Antonin, je crois. Alors ça, c'est du jingle, hein, c'est du jingle XXL. Joris est à fond la caisse, hein, c'était même quasiment le morceau tout entier. C'était quoi, Joris?
Kavinsky.
Kavinsky.
Exactement, j'en sais rien.
D'accord, merci pour l'information. J'ai bien fait de demander, on aura au moins le nom de la personne, du groupe. Kavinsky, c'est ça? C'est pas le nom du morceau ou c'est le nom du morceau?
Non, c'est le nom du groupe, c'est une seule personne.
C'est le nom du groupe et c'est un groupe d'une seule personne. D'accord. Bon, enfin, vous voyez quand même, hein, une émission, ça mûrit, c'est déjà la deuxième. Maintenant, on a nos jingles, on n'avait pas ça à la première. Ça va aller de mieux en mieux, on aura bientôt un générique, probablement une page internet, peut-être une page Facebook, enfin... Chers auditeurs, restez fidèles, suivez-nous, ça sera partout écrit CCC, c'est ça la classe, de toute façon ça ne change pas, ils ont la classe, ce sont nos lycéens, ils ont 17 ans et ils ont plein de choses à dire. Et maintenant on va s'intéresser aux filles et aux garçons, est-ce que l'éducation des unes et des uns doit être à l'identique ou doit-elle être, oh, ça c'est le stress du direct, en différence systématique? On a fait des tests, notamment dans les pays du nord de l'Europe, Suède, Norvège notamment, qui vont d'ailleurs très 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 loin dans ce qu'ils appellent les théories du genre, et on va peut-être parler de ça aussi parce que c'est totalement lié au même sujet, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas décider en fait véritablement du sexe de leur enfant et de l'appartenance de genre de leur enfant jusqu'à 8 ou 9 ans. Et il dit c'est à eux de choisir s'ils se sentent et s'ils sont garçons ou filles. Bon, ça c'est peut-être un peu extrémiste, en moins extrémiste. On a fait des tests de donner des jouets à des garçons et à des filles et on se rend compte qu'en fait, quand les garçons ne sont pas influencés par les parents, par des filles à côté, et quand ils sont tout seuls, vont pas forcément prendre des jouets de garçons et vont pouvoir jouer à la poupée. Et les filles jouer au camion de pompier pour prendre les clichés à l'envers. A priori, d'après les psychologues, ça ne pose pas de difficultés particulières. Et c'est dès lors qu'il y a une influence, c'est-à-dire que les parents mettent systématiquement dans leurs mains des jouets de filles aux filles et de garçons aux garçons, qu'une espèce de conditionnement serait fait. Est-ce que vous pensez que c'est excessif comme point de vue? Est-ce qu'on doit éduquer de la même manière un garçon et une fille, au moins en bas âge? Ou est-ce que très vite, il faut leur faire comprendre, entre guillemets, appréhender qu'ils appartiennent à un sexe et pas à l'autre? Monsieur Antonin, qui appartient au sexe masculin.
Moi, je pense que on doit encore garder. Enfin, il ne doit pas forcément y avoir de différence dans l'éducation. Enfin, après, les différences, elles sont peut-être dans les jouets, dans la tenue vestimentaire. Mais après, je trouve que ça fait un peu partie de la magie. Quand on est encore un enfant, on aime bien rêver. Enfin, ça fait pas partie de la magie de l'enfance de vouloir. Avoir un modèle ou vouloir jouer à la guerre ou des choses comme ça. Après, si jamais, comme ces études le montrent, il n'y a pas forcément une grande différence dans le choix des jouets quand on est neutre et qu'on n'est pas influencé, bah, pourquoi pas. Après, c'est au niveau de l'éducation. Et...
Est-ce que ça ne véhicule pas des clichés du genre « tu es un garçon, tu ne dois jamais pleurer, tu dois être un homme fort, toi tu joues à la guerre ou aux pompiers, et les filles, vous avez le droit de vous épancher, d'être sensible. » Et est-ce qu'à un moment donné, un garçon ne peut pas se sentir obligé de jamais pleurer, de jamais dire ses émotions ? Peut-être là dans des cas caricaturaux, mais peut-être pas tant que ça. Et plus tard, quand il sera adolescent ou adulte, il aura toujours en tête inconsciemment cette idée qu'un garçon, ça doit être fort et que ça n'a pas le droit de dire ses émotions. Et la plupart des psys expliquent quand même que tout le monde doit être en capacité de dire ses émotions, quel que soit son sexe, et que ça va mieux pour sa propre santé de le faire. Martin ?
Oui, je pense que c'est plus une histoire de normes et de stéréotypes qu'on s'est imposé au fur et à mesure de la société, en plus du côté anatomique et biologique, si je veux dire. Je pense que du coup, on est influencé par notre environnement, plus ou moins. Quand on est petit, on a peut-être l'image de notre grand frère, on a peut-être l'image, les parents ont l'image d'autres enfants qui eux-mêmes sont éduqués de telle façon. Et je pense que dans la société, on a tellement pris cette habitude-là d'orienter les garçons vers des jouets qui sont peut-être plus guerriers, et des filles vers le soin de la personne. Je sais pas, j'extrapole un peu, mais.
Oui, Fanny ?
Moi, je pense que, comme tu le dis, Martin, c'est un peu un cliché qui fait qu'aujourd'hui, parce que je pense que le fait de vraiment se tourner vers la masculinisation ou la féminisation, c'est quelque chose qui se fait plus tard avec l'avance de la puberté et tout ça. Et donc, je pense qu'un enfant en lui-même ne va pas forcément... je pense que c'est plus le cliché que lui imposent ses parents qui va faire, qu'il va avoir honte, par exemple, pour un jeune garçon de se tourner vers des Barbies, alors que lui-même ne va pas penser, et ce n'est pas parce qu'il va jouer avec des Barbies qu'il va forcément être féminin plus tard, enfin...
Je crois que c'est le petit journal de Barthez là, sur Canal+, que vous connaissez peut-être, il y a quelques semaines, qui avait fait ce test à la sortie, il y a quelques mois même, je crois que c'était pour Noël, à la sortie de l'arbre de Noël de l'Élysée. Vous savez que M. Hollande, le président, accueille des enfants régulièrement chaque Noël. Et à la sortie, ils ont donné des jouets de filles aux garçons et des jouets de garçons aux filles. Et on a eu à chaque fois des réactions du type stéréotypé, c'est-à-dire le garçon, il se mettait à pleurer quand on leur donnait une poupée. Et les filles, elles n'étaient pas contentes, elles faisaient un caprice parce que c'était un camion de pompiers. Là, ça rejoignait vraiment pour certains, le même cadeau était la pire infamie et pour l'autre, le plus merveilleux cadeau du monde. Antonin ?
Mais je pense que dans tout ça, il y a le rôle de la publicité maintenant est présente partout. On en voit de partout de la publicité. Et c'est sûr que quand on a un enfant, on est influençable. On voit déjà avec les caprices qui sont faits quand on va au supermarché avec notre maman ou notre papa. Quand on veut un truc, on fait un caprice parce qu'on le veut. Et ça, c'est beaucoup à cause de la publicité qui vraiment nous met dans la tête que voilà, quand on voit une Barbie, on voit la petite fille qui joue avec. Voilà, c'est le rêve des petites filles.
Et ça peut rapprocher quand on a un garçon de jouer à Barbie avec la fille. Est-ce que ça peut être une stratégie? Ne me regardez pas comme ça.
Pas d'enfant, il me semble.
Et alors, on peut très bien. Moi, j'ai joué avec ma cousine Pascal, je la salue, j'arrête de parler de ma famille, mais, mais je sais qu'elle m'écoute, normalement, elle a intérêt. Et pendant longtemps, et voilà, ça m'a pas plus perturbé que ça. On jouait pas tout le temps à la poupée. Mais je me souviens qu'elle avait un camping-car Barbie. Alors camping-car Barbie, remarquez, c'était entre les deux, entre hommes et femmes, puisque camping-car, c'est évidemment l'homme qui conduit toujours. Mais par contre, c'était de la poupée Barbie, il appartenait C'était très à l'avant sur son temps, en fait. La propriétaire, c'était la femme du camping-car. Un truc inimaginable dans les années 80. Aujourd'hui, même les femmes peuvent être propriétaires. Bon, j'arrête mes bêtises. Clarisse et Martha.
Je pense que je suis d'accord avec Antonin. Le fait qu'il y ait des publicités, et ça influence donc forcément la société. Et forcément, les publicités, elles sont faites pour s'adresser à un certain public. Donc, quand on voit, comme il a dit, des Barbies, bon, forcément une petite fille. Et quand on voit plutôt du camion, comme vous l'avez dit, ben... plutôt des petits garçons. Et ça, déjà, rien que par le fait de le voir, le petit garçon, déjà, il va s'orienter vers ça. Et je pense qu'après, les parents, comme forcément, il n'y a pas... Dans l'éducation, on ne doit pas forcément être c'est une fille, c'est un garçon, mais que ça influence toujours le fait d'être dans un environnement comme ça.
Martin et Fanny Lucky Luke au féminin.
Et je suis d'accord avec la publicité, mais par contre, je ne pense pas que ce soit ça à l'origine. Enfin, je pense que c'est... La publicité utilise les faits de société pour attirer la clientèle. Du coup, je pense que c'est plutôt cette histoire de normes qu'on s'est imposées et du coup qui sont utilisées pour nous orienter encore plus vers ce système-là. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce principe qui a été instauré dans les pays du Nord. Parce que je pense que quand on est enfant, on n'a pas conscience forcément de des histoires de sexualité, de ce qu'on est, de ce qu'on représente. C'est sûrement aux parents de nous l'inculquer, mais je pense pas qu'il faut que les parents aient une orientation particulière. Et je pense que c'est après à l'enfant de choisir ce qu'il veut être.
C'est en train de changer petit à petit, mais pendant longtemps, dans les magasins de jouets, on va pas citer les enseignes célèbres, l'une commençant par jouer, l'autre s'arrêtant par club, eh bien vous aviez, je crois qu'ils sont en train de changer ça, les rayons de jouets garçons et les rayons de jouets filles. Donc déjà, il y a une espèce de conditionnement, effectivement. Comme si les unes et les uns ne pouvaient pas aller dans l'autre corps. Enfin, les parents, c'est en général eux qui achètent. C'est les enfants qui prescrivent. Et les enfants qui achètent la ménagère de moins de 50 ans, la fameuse, qui intéresse les audimates télévisuels ou radiophoniques. Fanny ?
Moi, je pense que les parents aussi, ils ont un rôle primordial là-dedans. Et je pense que ben, finalement, les parents vont reproduire le schéma qu'eux-mêmes ont vécu. Donc du coup, ils vont reproduire sur leurs enfants les parents, ce qu'ils ont... Voilà, ce choix de la sexualité. Et du coup, je pense que c'est ces mentalités-là qu'il faut changer, je pense. Et que du coup, maintenant, les nouveaux enfants qui naissent le jour, donc nous, notre génération, ainsi que les suivantes, c'est celles-ci qui vont être porteuses peut-être d'une sorte d'égalité. Et on voit que d'ailleurs, il y a de plus en plus de garçons qui vont se tourner vers la danse, par exemple, tandis que de femmes vers la police ou des choses comme
ça. Le choix du genre ou du sexe, hein, plutôt que la sexualité, ça, c'est autre chose.
Oui, enfin, c'est ce que je voulais dire.
Mais j'avais bien compris. Je me permets de rectifier un tout petit peu. Anne-Sophie ?
Moi, je suis d'accord avec toi, Fanny, parce que, par exemple, un exemple tout bête, dans les magazines de jouets pour Noël, par exemple, on a tout de suite les pages avec les filles qui sont en rose pour les Barbies, et les garçons, c'est toujours plus foncé, c'est toujours avec les camions, avec les petites figurines de guerre. Et quand
en bleu,
en
rouge.
Voilà.
D'ailleurs, les deux garçons
bleu,
ici,
rose.
Sur trois, sont habillés en bleu.
Voilà, alors que je suis pas sûre qu'un enfant, finalement... son propre quand il est enfant, qu'il est petit, fasse cette différence. Et je suis pas non plus sûre que le regard des autres enfants le gêne et qu'ils s'en rendent forcément compte quand il est petit. Par exemple, vraiment, quand on voit les jouets pour les tout petits enfants, c'est neutre aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et cette différence, je trouve que c'est plus les adultes qui la font et qui la pointent du doigt.
Et c'est un peu plus tard peut-être dans l'âge aussi de l'enfant.
Oui. Je suis pas sûre que l'enfant se rende compte de cette différence.
Oui, mais à la limite, c'est quand il n'en est pas conscient qu'il n'y a pas de différence. Donc, du coup, c'est neutralisé, pour prendre ton terme. C'est peut-être plutôt un peu plus tard, quand il commence à réfléchir et
à se poser des questions, en plus à la puberté.
Choses, oui, que ça devrait être fait. Bon, la puberté, peut-être que les jouets, on a un peu laissé tomber, mais. jouer. Mais je ne sais pas, moi, jusqu'à quel âge vous achetiez des jouets, on vous achetait des jouets. Bon, c'est un terme un peu générique, jouer en même temps. Mais après, on passe très vite de plus en plus tôt aux jeux vidéo. Téléphone portable maintenant, le jouet maintenant à 6 ans, 7 ans, c'est quasiment le téléphone portable, non ? Peut-être non. Pas votre génération, peut-être celle de maintenant. Vous êtes déjà presque vieux, à 17 ans, mine de rien. Clarisse proteste.
Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, parce qu'il y a aussi des jouets aussi qui peuvent, qui ne sont pas destinés forcément aux garçons ou aux filles, et dont les garçons et les filles jouent tous les deux. C'est-à-dire comme les Lego, les choses comme ça, les Playmobil, il y a autant de filles que de garçons qui jouent, je pense, et que c'est pas attribué forcément.
Lego, ça c'est mon cousin David qui était fan. Mais moi non, pourtant on était deux garçons, voilà, par exemple, pour lutter contre les stéréotypes. Non, vous avez le droit de parler de votre famille aussi, d'ailleurs quelqu'un a parlé de son frère, je sais plus, tout à l'heure. J'entends des voix, je suis la nouvelle Jeanne d'Arc. Je suis sûr que quelqu'un a parlé non pas de son frère peut-être, mais de quelqu'un de sa famille tout à l'heure, en dehors de moi je veux dire.
Moi, j'ai dit à ma maman.
Voilà, sa maman, je savais bien, c'était pas frère, ça n'a rien à voir. Ta maman n'est pas confondable avec ton frère, je connais les deux, je confirme que non. Fanny, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non.
Incroyable. Alors, est-ce qu'on passe à notre troisième sujet, après un jingle un peu plus court peut-être que celui de tout à l'heure, que va nous proposer le grand, l'énormissime, parle pas de son poids, hein, parle de sa valeur morale, Joris.
Ah, c'est plus calme.
Merci pour ce nouveau jingle. Il s'agissait, Joris, de
Tristam.
Tristam. D'accord,
surtout connu sur Internet, sur YouTube notamment.
D'accord, je ne connaissais pas, je découvre grâce à toi. Chers auditeurs de Radio Diwa, après cette petite pause, il est 12h40. Tout ça, c'est pour bien vous prouver que nous sommes en direct. Le temps est presque humide, il n'a pas encore trop plu. Mais c'est très nuageux. Nous avons la fenêtre du studio qui donne sur l'extérieur. Et donc, il est 12h40 maintenant. Nous ne trichons pas, nous sommes bien en direct. C'est bien, c'est ça la classe, c'est. Ils ont donc la classe, cela fait maintenant 30 minutes qu'ils vous le prouvent, ils vont continuer dans les 10 dernières minutes de cette émission et on va être un peu plus léger, encore qu'on n'était pas dans le sujet non plus trop lourd tout à l'heure, j'espère, et surtout pas lourd pour les auditeurs qui nous écoutent avec plaisir, je le souhaite en tout cas. Il s'agit de Cannes, et plus que jamais, je parlais de direct, nous sommes donc en direct, pardon d'insister, mais c'est une grande aventure pour vous et pour moi, pour les auditeurs aussi peut-être, les pauvres, je ne sais pas, on verra s'ils seront fidèles au troisième rendez-vous. Je vous le redirai d'ailleurs à la fin de l'émission, mais c'est important, on se revoit dès la semaine prochaine, de nouveau en direct, et cette fois-ci avec une dizaine de personnes, hein, la première équipe de la semaine dernière pour le premier numéro. Ils seront revenus du défi nature, on leur demandera s'ils ont remporté toutes les médailles comme d'habitude, et on parlera d'autres sujets. Je vous donnerai peut-être un petit aperçu en exclusivité des sujets de la semaine prochaine, d'ailleurs que les camarades de l'équipe ici présents ne connaissent pas encore, donc ils vont découvrir en même temps que vous, chers auditeurs, privilégiés que vous êtes. Ils n'ont même pas eu la primeur des sujets de la fois prochaine. Le suspense est insoutenable. Pour l'instant, c'est le dernier sujet de CCC. C'est ça la classe. Vous êtes toujours sur Radio Diwa. Il est 12h41. La radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Soyons fous. Au moins jusqu'à Cré. J'ai fait le test. Aux portes de Cré, on entendait encore Radio Diwa. Donc de Cré jusqu'à Luc en Diwa. Écoutez 107.5, vous êtes bien branchés sur 107.5 et le dernier sujet concerne Cannes, car en effet, nous sommes en direct, si vous n'avez pas compris avec ça, si vous n'écoutez vraiment pas ce que je raconte, et donc nous sommes le 15 mai et Cannes, ça commence aujourd'hui. Et est-ce que Cannes, c'est du bling-bling? Est-ce que Cannes, ça reste in? Vous savez que ça a commencé il y a très longtemps, on est à la 66e édition, ça a fait naître des stars, mais aussi beaucoup de starlettes, un peu de pacotille. Dans les stars, on a la fameuse Brigitte Bardot, évidemment, qui se promenait sur la fameuse croisette. Est-ce que vous connaissez Cannes? Est-ce que vous êtes déjà allé à Cannes? C'est un superbe endroit, c'est vrai. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est l'ouverture, et c'est le fameux Leonardo DiCaprio, grand acteur américain, s'il en est, qui était époustouflant dans Django Unchained, le dernier Tarantino, qui fait l'ouverture donc avec une nouvelle version de Gatsby le Magnifique. Alors est-ce que pour vous, d'abord est-ce que vous intéressez au cinéma de manière générale, et est-ce que Cannes c'est un truc que vous allez suivre, est-ce que vous allez regarder les récompenses dans 10 jours, est-ce que vous en avez à peu près rien à faire? C'est un peu la question que je vous pose. Fanny?
Moi je pense qu'il y a deux aspects à Cannes, il y a un aspect qui est super positif parce que ça permet au grand public du coup de découvrir des films qu'ont parfois voilà, une grande valeur, et ça permet aussi à des artistes, des acteurs etc. d'être découverts. Mais il y a aussi le côté qui est beaucoup plus bling-bling, comme vous disiez. Et ça, moi, je trouve ça presque indécent parce que je trouve que c'est aussi un étalage de richesse. Et je trouve que dans ce contexte de crise, d'austérité et tout ça, moi, ça me choque un peu qu'il y ait autant d'étalages de richesse alors que dans la rue, des gens meurent.
Le président du jury, c'est cette année Steven Spielberg, le grand Steven Spielberg, dont ma cousine Pascal est fan, Anne-Sophie.
Pour ce qui est du côté bling-bling, en fait, j'avais juste envie de dire que tout ce qui est les paillettes, tous les bijoux qu'ont les acteurs, les robes avec lesquelles ils paradent sur le tapis rouge, c'est pas forcément les leurs.
Le fameux tapis rouge, la fameuse montée des marches. Ouais.
Et finalement, ils sont là à faire finalement les stars, mais c'est pas forcément les leurs. Et ce qui profite à la ville de Cannes, c'est plus en fait les magasins qui leur prêtent tout cela.
Oui, c'est
et
vrai.
Donc ça peut être bien pour ces magasins qui sont sur au bord de la croisette. Pour pas dire les marques célèbres, mais ça leur permet de montrer leurs bijoux, etc. Mais on se rend bien compte qu'on est dans une période de crise et que ces bijoux-là, c'est pas forcément les stars qui les ont. Et dans ce cas-là,
vous êtes déjà rendu à Cannes pendant le festival? Oui. Tu as vu la fameuse montée des marches? Enfin, vu pas grand-chose certainement parce qu'il y a des gens qui campent trois jours avant pour être au pied du tapis rouge. Souvent, on voit d'un peu loin ou presque plus sur le grand écran que en vrai, en direct. Contrairement à nous. Qui sommes vraiment en direct. Il est 12h44 sur Radio Diwa et c'est Fanny, la Lucky Luke au féminin, celle qui parlait plus vite que son ombre, avec une concurrence rude en la personne de Clarisse, qui va désormais de nouveau s'exprimer. Fanny?
Moi, c'est pour répondre à ce que tu dis. C'est pas tant le fait que les stars possèdent toutes ces richesses qui me choque, c'est plus justement cet étalage. Et moi, c'est plus par décence vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas se permettre parfois, qui ont des difficultés à acheter à manger et tout ça. Vraiment le fait, ça fait rêver, certes, mais moi je trouve ça plutôt négatif. Et je pense que par rapport à certaines personnes, voilà, c'est un manque de naissance.
Est-ce que c'est une manière quand même de faire parler du cinéma et, on a eu un peu une crise des spectateurs, si je peux dire, qui allaient de moins en moins au cinéma. On a eu de très bonnes années les derniers mois, notamment avec le fameux Intouchable et beaucoup d'entrées qui a fait un peu revivre le cinéma. Mais le cinéma rame un peu aussi parce que ça coûte cher de faire un film, ça coûte cher de se faire financer. Est-ce que Cannes n'est pas l'occasion d'être une vitrine quand même ? Peut-être un peu paillette, effectivement, strass et un peu bling-bling, comme on disait dans le lancement. Mais est-ce que c'est pas un moyen de faire découvrir ou aimer le cinéma ? C'est aussi ça, le cinéma, c'est aussi ce côté paillette quand même, non, Antonin ?
Bah, au sujet de que les gens vont moins au cinéma, il y a surtout la raison que depuis certaines années, le téléchargement il est en grande augmentation.
C'est moins cher.
Et voilà,
c'est illégal souvent.
Et surtout illégal. Et
parce que le cinéma, c'est quasiment 10 euros l'entrée. Donc,
ouais, ça, ouais, après, ça dépend. Cinéma,
dans les grands complexes.
Voilà.
À 10, c'est beaucoup moins cher. Il faut aller au cinéma.
Pub.
Donc. moi je trouve qu'après au niveau du festival en lui-même, je trouve qu'il y a toujours un peu ce rêve du cinéma qui est encore présent. Après ça m'a permis de découvrir des films que j'irais pas forcément voir de moi-même en regardant le programme du cinéma proche de chez moi. Comme je pense surtout Entre les murs, le film qui avait été reçu la Palme il y a 2-3 ans, je sais plus
sur
trop.
Sur ce professeur de français.
Ouais,
en
voilà.
Classe.
Oui. Et j'étais allé le voir justement suite à la Palme. Et
voilà un exemple. C'est parce qu'il a eu la CAM que tu es allé le voir.
Ouais,
la Palme,
voilà.
Pardon. Et oui, voilà. C'est une manière de faire parler des films aussi. Alors après, la sélection est parfois contestable. Est-ce que c'est toujours des films de qualité ? C'est subjectif ? Toujours grand public ? Pas toujours. Il y a eu des polémiques à Cannes, hein, des réalisateurs qui ont eu la Palme d'Or très contestés, Martin Scorsese notamment, qui avait fait une œuvre considérée comme impie par certains catholiques, un peu extrémistes peut-être. Donc c'est un choix qui doit être fait. Steven Spielberg, c'est une référence. En général, les présidents de jury, mais qui ne sont que présidents, ils ont une voix parmi d'autres, ils ne sont pas les seuls à décider, et des prix, et même des films sélectionnés. En revanche, ça fait connaître beaucoup de pays différents, parce qu'on a des films japonais, italiens, d'Ouzbékistan, enfin je dis n'importe quoi, mais pas forcément parfois de pays un peu improbables ou peu connus de la France en tout cas, ou un peu lointains. Martin ?
En fait, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est justement cet aspect qui permet de découvrir, d'élargir le cinéma, de l'ouvrir. Surtout, je pense aux films d'auteurs qui sont souvent palmés, parce qu'il y a des films d'auteurs qui sont très profonds et qui sont, du coup, qui ciblent un public souvent un peu plus étroit que les films de grand public, les blockbusters américains. Mais je trouve que du coup c'est intéressant, ça permet vraiment d'élargir les horizons, comme vous avez dit, de voir des films qui viennent d'autres pays et de petits auteurs, de permettre de les lancer, c'est un peu un tremplin. Mais à côté de ça, je trouve que justement il y a ce côté qui est une publicité donc pour le cinéma, et il y a un autre côté qui fait publicité pour les acteurs et qui est parfois surjoué et qui est trop, en fait, c'est la mise en scène et comme disait Fanny, un peu limite indécent.
D'accord. Anne-Sophie et Clarisse, peut-être avant de conclure.
Moi, je suis d'accord avec Martin. Ça fait découvrir plein de films. Mais à côté de ça, je trouve qu'on mélange un peu tout. Et c'est ça qui est dommage. Et je trouve que finalement, ce festival, il perd de la valeur. Parce qu'on mélange un peu tout. On mélange les stars, mais aussi les starlettes. Et quand on voit qu'il y a eu des très grandes actrices qui sont passées sur ce tapis et que maintenant, il y a des personnes comme Nabila qui vont monter les marches.
Stars de la télé-réalité, enfin les
starlettes.
Voilà.
Oui. Je trouve que c'est un peu déplacé et que les gens comme ça, ils sont pas à leur place et que c'est ça qui fait perdre de la valeur au festival.
C'est vrai que c'est de plus en plus people et qu'en tout cas, la télé-réalité fait parler beaucoup d'elle à Cannes. Et voilà, Nabila, la fameuse nommée à l'eau, c'est ça ?
Oui, et je trouve ça dommage.
Sera présente à Cannes.
Parce que c'est pas la valeur du festival pour moi.
D'accord, tu penses que ça perturbe un peu le comment dirais-je, l'idée première de Cannes et l'âme de Cannes.
De faire connaître
l'âme
des beaux
cinéma.
Films.
En plus, elle n'a rien fait au cinéma. Donc,
oui, donc je trouve qu'elle n'est vraiment
rapport.
Pas à sa place.
Elle est un peu à côté de la plaque, effectivement. Oui, mais on sait que ça va faire venir aussi un peu de monde, un certain public. Pas forcément un public qui ira voir des films après, c'est
on
vrai. Puisque
peu,
le rapport
mais...
est... ça fera parler, quoi. Ça fera du buzz, comme on dit aujourd'hui. Clarisse ?
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Anne-Sophie, mais je pense que c'est une manière aussi de mettre le cinéma par devant, c'est-à-dire de l'ouvrir au grand public.
En avant.
Et de l'ouvrir au grand public et donc que tout le monde puisse donc se dire il y a des nouveaux films, et puis les films ils viennent de tous les horizons, donc c'est aussi une façon de mêler les cultures, et c'est un enrichissement, je pense, même s'il y a des côtés toujours peu. il peut toujours y avoir des côtés péjoratifs.
Fanny.
Bah, du coup, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, je pense que ce qu'il faut...
C'est encore elle qui va conclure.
Mais je pense que du coup, il faut principalement garder le côté culturel. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça permet ben, de rendre attrayant certains films au grand public. Et du coup, ça permet de faire connaître. Donc c'est ce côté-là, je pense, principalement qu'il faut garder. Et non pas le côté, ben, voilà, tout ce qui est trop cérémonie, etc.
Anne-Sophie ne veut pas laisser le dernier mot à Fanny.
Non,
tu
juste
as raison,
pour
chacun
conclure,
son tour.
Parce que pour y avoir été, avoir vu ce que c'est et avoir de la famille à Cannes, je sais que finalement ce festival, ça a de bons aspects pour tout ce qui est les grands palaces de la Croisette et toutes ces grandes marques, mais finalement ça reste très bling bling et ça ne fait pas forcément marcher les petits restaurants de Cannes. Et donc en temps de crise, c'est vrai que c'est pas non plus un festival qui... Ça rapporte de l'argent, mais pas forcément aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est surtout un... Il y a beaucoup de problèmes parce que toutes les rues sont fermées pour accueillir des stars, finalement.
Ceux qui habitent à Cannes, effectivement, en général, s'en vont. C'est un enfer.
Oui, parce que finalement, c'est des stars qui vont apparaître 5 minutes sur le tapis qu'on va voir, qu'on va entreapercevoir dans la foule. Donc, c'est une très, très grande organisation. Et encore une fois, pour que ce soit des personnes comme Nabila qui s'y retrouvent...
Je suis sceptique.
Pas... Ouais, voilà.
Alors, de Cannes à Paris, on va faire un grand écart, mais juste avant de terminer, et pour montrer une fois de plus qu'on est vraiment en direct à nos auditeurs, il y a deux jours, il s'est passé des choses pas très sympathiques à propos du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il y a des fouteux parmi vous. Si tu as un mot à dire, Antonin, là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ce spectacle, entre guillemets, un peu pitoyable? Alors, de quelques extrémistes, on imagine minoritaires, mais
après,
bon.
Après, ouais, voilà, on parle, j'ai entendu beaucoup de gens dire, Paris Saint-Germain... Il y a de la violence et tout, c'est le Paris Saint-Germain, mais faut rappeler que c'est le milieu du football où il n'y a pas que au Paris Saint-Germain qu'il y a beaucoup beaucoup de violence. On voit dans certains stades, je pense notamment au dernier match en Corse, le derby Bastia-Ajaccio, où il y a eu des jets de pierre, il y a eu des blessés, et je pense que vraiment le football là ça perd de sa valeur. Et ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, que des gens aient fait des centaines de kilomètres pour aller voir pour aller féliciter les joueurs, et qu'au final les joueurs sont restés que 5 minutes parce qu'il y a eu des débordements, il n'y avait pas assez de police pour encadrer justement cette foule qui a été immense, et du coup les joueurs parisiens ont même refusé d'aller
sur la péniche.
Voilà, sur la péniche. Et c'était vraiment quelque chose de... Il y a des gens qui étaient vraiment en colère parce qu'ils se sont fait... Il y a des gens qui se sont fait piétiner.
C'est ce qu'on appelle les ultras, en tout cas ils s'appellent comme ça. Il faut être prudent parce que pour essayer de. Voilà, ceux qui sont souvent interdits de ça.
Ouais,
alors est-ce que tous ces gens-là étaient des ultras? On ne sait pas trop.
Ouais,
il y avait des
casseurs aussi. Il y a des gens qui sont arrivés.
Des profiteurs de guerre.
Voilà, qui sont arrivés avec des cagoules, ils ont profité de l'événement. Il y a eu des magasins qui ont été cassés. Il y a vraiment eu des scènes de violence. Et
c'est vrai, quand ça se passe à Montpellier ou à Manchester, tu dis le football en général, mais il n'y a pas ce genre de choses. Il y a, me semble-t-il, j'ai l'impression que ton cœur tourne vers le PSG, mais...
Non, mais je me souviens... Non.
Il y a des gens très particuliers dans ce...
Non, justement, à Marseille aussi, quand Marseille avait eu le titre, il y avait eu des débordements, il y avait aussi des magasins qui avaient été cassés.
Tu es supporter de quel club, toi?
Moi, j'ai pas forcément de préférence.
J'ai cru que c'était le PSG.
Plus en Angleterre, j'aime beaucoup.
D'accord.
Arsenal. Voilà.
Anne-Sophie?
Moi, je trouve que c'est dommage qu'une fête comme ça n'ait pas pu être fait dignement, parce que quand on regarde dans la même période, il y a eu Manchester qui a fêté son titre aussi et que ça s'est très bien passé. Je trouve que l'organisation, elle a été assez déplorable et c'est dommage. Parce que c'est rare que... ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné ce titre, le PSG, et il méritait peut-être de le fêter mieux. Donc, quand on voit que ça se passe bien à côté, on se demande un peu pourquoi ils n'ont pas réussi à maîtriser tout ça, ces personnes.
En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le sport, ça.
C'était à prévoir.
C'est dommage. Moi, je ne suis pas un grand fan de foot, mais ça ne donne pas forcément envie. Encore une fois, je fais la part des choses. Je sais bien que c'est exceptionnel et heureusement que ce n'est pas représentatif ni de tout le football, ni de ce club tout entier, mais c'est assez triste comme spectacle. Eh bien, écoutez, chers lycéens et lycéennes, je vous remercie vivement de votre présence. Vous avez attendu, et votre estomac a attendu ce qu'on n'avait pas mangé à la fin des cours pour venir à cette émission. Ça sera le même sort pour vous la semaine prochaine, je suis désolé. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine en direct à 12h10 avec trois sujets nouveau. D'ici là, restez évidemment à l'écoute de Radio Diwa, la radio du Diwa et même au-delà, avec plein de programmes passionnants. Les trois sujets seront, alors sauf évidemment, car maintenant on fait un peu les malins car nous sommes en direct, sauf bouleversement particulier de l'actualité. Il est évident que s'il se passait un truc énorme dans l'actualité, on le souhaiterait presque, pas grave, mais d'ici mercredi prochain, nous bousculerions le programme. Mais enfin, a priori, si rien de tout ça ne se passait, on parlera de l'apprentissage à 14 ans. Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce qu'il faut rester au collège ou au lycée plus tard, ou est-ce que à 14 ans, c'est l'apprentissage à 14 ans, un trop jeune âge, ou juste à temps? Nous parlons ensuite des otages à l'étranger. Est-ce une rançon pour libérer les Français, ou sans façon, car un moyen de pression? Et enfin, les campagnes de lutte contre le harcèlement, contre la violence routière. Faut-il tout montrer? Faut-il montrer des images chocs ou des images plus soft, plus légère? Est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut montrer des choses un peu violentes? Est-ce que ça convainc mieux? Alors on peut parler du harcèlement, de la violence, parfois à l'école. D'ailleurs, il y a la petite polémique autour de College Boy, un clip en noir et blanc tourné par Indochine, un de leurs derniers titres, qui a été interdit au moins de 16 ou 18 ans, je ne sais plus, par ces images violentes et qui montrent un jeune homme tabassé dans son collège parce que sujet de raillerie. Voilà, on termine pas sur une note très gaie, mais on essaiera dans cette émission d'alterner la légèreté et les sujets plus sérieux, parce que l'actualité, c'est ça aussi, c'est du très léger avec Anne, peut-être, par exemple, et du moins léger pour d'autres sujets. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. J'espère que vous allez le devenir régulièrement. En tout cas, nous, on vous dit toutes et tous rendez-vous donc mercredi prochain, juste après le flash d'information de RFI, sur Radio du Diwa pour un numéro 3 de CCC, c'est ça, la classe. Merci, à la semaine prochaine.